Alors, n'ajustez pas votre appareil. C'est pas Ron que vous entendez, puis c'est pas les remplaçants habituels non plus, là, hein, Jérémy Rainville ou Derek Aucoin ou Yannick Bouchard. Ben non, parce que ce soir, c'est moi qui prends la relève pour une simple et bonne raison. Vous vous en doutez peut-être. Week-end du Grand Prix du Canada, puis c'est une fin de semaine très spéciale. Hein, cette année, on célèbre au Grand Prix du Canada le 40e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve, sa première victoire en Formule 1, première victoire d'un pilote canadien dans l'histoire de la Formule 1 également. Et ça, c'est vraiment un événement qui allait jeter les bases du sport automobile au pays. C'est pas exagéré de dire ça, pas du tout. Puis ce soir, ben, on m'a confié la barre de Bonsoir les sportifs pour toute la soirée. Donc ça veut dire que toute la soirée, on va vous parler de course automobile. On va fouiller dans nos souvenirs des 40 ans du Grand Prix du Canada. On va parler évidemment beaucoup de Gilles Villeneuve, parce que c'est incontournable. Et pour ça, ce soir, moi, je me suis vraiment fait plaisir, mais je me suis fait plaisir pour vous faire plaisir aussi. J'ai invité avec moi des gars que je considère véritablement comme des encyclopédies du sport automobile. J'en ai deux en avant de moi, là, et j'ai coutume de dire de ces gars-là que si à un moment donné, on perd Google, puis on perd Wikipédia, c'est pas grave, on a Philippe Brasseur et on a René Fagnan. Alors, on est en business, il n'y a pas de problème. Puis un petit peu plus tard aussi, on va avoir Louis Butcher du Journal de Montréal qui va se joindre à nous. Alors, je vous présente tout de suite mes invités, puis après ça, on va s'en aller avec Maxime Sarrazin qui, lui, va nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au circuit Gilles Villeneuve. Donc, Philippe Brasseur qui est en avant de moi. Bonsoir Philippe, bienvenue ici en studio.
Philippe. Bonsoir Philippe, ça me fait très plaisir d'être là.
Ben, ça me fait très plaisir moi aussi que tu sois là, parce que là vraiment on va se payer à la traite là. Et Philippe, vous le savez peut-être, c'est le rédacteur en chef du magazine Pole Position. Pole Position qui est le, corrige-moi si je me trompe Philippe, le seul magazine de sport automobile au Québec.
Ben oui, il en reste deux au Canada, en anglais à Toronto, puis nous autres au Québec en langue française bien entendu.
Et Pole Position qui existe depuis...
J'ai créé ça il y a 28 ans, c'était juste avant le Grand Prix de Trois-Rivières 1990.
Hey, j'ai connu ce jeune homme tout jeune, nous étions tous deux jeunes hommes à l'époque, hein. Voilà. Et un autre aussi que j'ai connu à cette époque-là, René Fagnan. René qui lui écrit entre autres pour motorsport.com, qui est personnellement moi une de mes références là, que j'utilise beaucoup régulièrement parce que bon, vous mettez des trucs en ligne quotidiennement. Alors motorsport.com, René, tu peux nous en dire un petit peu vite là-dessus?
Ça a commencé dans les années 90 par un photographe qui s'appelle Éric Gilbert. Et puis, c'était vraiment au début de l'Internet. Il cherchait un moyen de diffuser ses photos. Et puis, il y a environ 4 ans, ça a été racheté par Mike Zoy, qui est un Russe, mais qui a longtemps vécu en Italie, qui est très tifosi, qui est très Ferrari. Et puis qui a fait fortune justement dans des start-up informatiques et tout. Il a vendu et puis il a racheté Motorsport. Mais depuis 3 ans, donc, on est rendu à, je crois, 22 éditions internationales, dont une édition canadienne. Et puis 18 ou 19 langues différentes. Donc, moi, je m'occupe de Motorsport Canada. Mais j'ai aussi un pied avec nos cousins français. Parce qu'ils m'ont donné quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la rédaction d'articles rétro, justement, de F1, où je parle, par exemple, de la victoire de Gilles Villeneuve au Grand Prix d'Espagne en 1981. Puis je traduis aussi tous les articles techniques de Giorgio Piola, qui, lui, mon Dieu, fait ça depuis à peu près 1976, à peu près. Donc, la plupart des dessins techniques que vous voyez de F1, ben moi, je les traduis, j'ai pas une certaine aisance. Je suis pas un ingénieur, mais j'ai toujours aimé ce côté-là. Et puis, ça me permet de combiner les deux, d'avoir beaucoup de plaisir. Puis en fin de semaine, justement, de voir de près les voitures de F1, la très haute technologie, là, c'est vraiment passionnant.
Puis moi, je les aime, tes textes rétro. Hein. Je les spin régulièrement oui. Sur ma page Facebook parce que moi, c'est une corde sensible, le volet historique de la course automobile. Puis c'est pour ça aussi que c'est un privilège pour moi de vous avoir ce soir parce que vous êtes deux références de ce côté-là. Hein. Comme disent les Français, vous assurez. messieurs. Bon, et là, en avant de moi, j'ai notre recrue cette année, Maxime Sarrazin. Maxime qui travaille avec nous depuis quoi, quelques mois?
Oui, depuis l'automne.
Au 98.5.
Exact.
Et là, en fin de semaine, tu choses des très, très gros souliers. Là.
Oui, c'est un beau défi.
Hein?
Tu couvres
le Grand Prix du Canada.
Mais en fait, je suis chanceux, puis on ne se le cachera pas. Normalement, c'est humblement mon grand collègue Philippe Bonneville qui aurait dû être sur place au Grand Prix. Je chausse un peu ses souliers puisque lui a dû relever la tâche de couvrir le G7 en compagnie de Julie-Christine Gagnon.
C'est ce que j'allais dire. Il se passe quelque chose dans Charlevoix.
Il y a quelque chose qui se passe à Charlevoix. Mais je sais pas. Un certain Donald se trouve là pour l'instant. Mais ouais, non, c'est donc on a cru bon de me faire confiance. Alors oui, des gros souliers à chausser, mais j'ai énormément plaisir de le faire, puis je le fais bien humblement, mais j'espère relever le défi avec brio.
Bon, en tout cas, moi je t'ai vu aller aujourd'hui, puis je peux dire que les grands souliers sont très, très bien chaussés. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Tu es en train de dire que j'ai des grands pieds?
Perception, hein, perception. Bon, Maxime,
oui.
Là, il faudrait d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis évidemment, Philippe et René, je vous invite à commenter et à mettre votre petit grain de sel. Aussitôt que ça vous tente, c'est une discussion ouverte ici. Il n'y a pas de problème. En autant qu'on ne se parle pas un par-dessus l'autre, tout va être parfait. Alors, donc, deux séances d'essais libres aujourd'hui. Mais avant de vous parler des essais libres, je pense qu'il faut qu'on vous mette en contexte. Hein. Mmh. Hier, il y a un certain Max Verstappen qui a fait une déclaration un petit peu controversée. Un petit peu.
On lui a demandé tout d'abord, explique-nous, on lui a demandé en anglais, là, explique-nous pourquoi tu as autant d'accidents depuis le début de la saison. Voici sa réponse.
I don't know. And like I said in the beginning of this press conference, I got really tired of all the questions, so yeah. I think if I get a few more, I'll headbutt someone.
Alors, comme on le dit depuis hier, il dit, je sais pas. Long silence. Puis je vous dis, dans la conférence de presse, là, les gens, on était...
Il y avait un malaise.
Malaise. On était sur le bout de nos chaises. Et à ce moment-là, il réplique, je l'ai dit en conférence de presse, au début, j'ai pas envie de répondre aux questions. Puis si quelqu'un m'en parle encore, je lui donne un coup de tête.
I will headbutt someone.
Ah non, ça, c'est fort. T'sais, je vais faire un Zinedine Zidane de moi. Donc, grosso modo, bon, ça fait partie peut-être un peu du personnage. Je pense que, comme on le disait un peu plus tôt aussi...
Le bad boy de la F1.
Oui, puis il y a une pression aussi qui vient avec le fait qu'il y a eu des accidents. Et ça, les faire reprocher, c'est certain. Puis, je pense qu'il ressent cette pression-là. Donc, le fait de se le faire remettre sur le nez par un membre des médias. Puis, on se le cachera pas, là, ça a peut-être pas été demandé de la façon la plus cordiale et sympathique. Là, c'était je vais prendre l'expression anglophone, cocky un petit peu.
Ouais,
c'est
une question un peu cheap.
Oui, c'est une question qui était tu sais, explique-nous, pourquoi t'as autant d'accidents? Ça aurait pu être amené, écoute, t'as beaucoup d'accidents, tu peux-tu nous expliquer ce qui se passe? T'sais, déjà là, c'est un petit peu plus amené, mais bon, c'est un choix de questions, puis on reviendra pas là-dessus, mais je comprends le fait qu'il soit senti visé puis piqué un petit peu, mais écoute, il nous a donné une déclaration qu'il a faite toute la journée.
Philippe, d'abord, et ensuite René, est-ce que c'est juste du show, ça, ou Mad Max est vraiment soumis là, à une très, très forte pression chez Red Bull, puis là, il y en aura le pompon, là?
Je pense que définitivement qu'il a de la pression, ça c'est certain. On a d'autant plus de pression quand on est pilote de Formule 1 que notre coéquipier a déjà gagné, lui, un tiers des courses cette saison. Parce que Daniel Ricciardo, avec l'autre Red Bull, a gagné, lui, contrairement à Max Verstappen. Donc c'est certain que c'est encore aussi un très jeune pilote. Ça, on l'oublie parfois un petit peu. Parce que la maturité, il l'a pas encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, bon, il a eu comme beaucoup de pression, je dirais, familiale, parce que son père a été pilote de Formule 1. Sa mère a été pilote, une excellente pilote de karting. Elle était même meilleure que son père, soit dit en passant. Et c'est vrai que c'était la fille elle-même d'un pilote de rallycross en Europe, donc c'est toute une tradition de sport automobile, il a toujours baigné là-dedans. Mais ceci dit, je pense aussi qu'il y a une réalité, c'est que quand tu es pilote de Formule 1, il faut être sujet à la critique, il faut savoir l'accepter. Et bon, il est très très heureux d'être pilote Red Bull à ce stade-ci, mais ça vient avec la pression médiatique, il faut l'avouer, il faut l'accepter.
René?
Oui, je suis d'accord avec Philippe qui dit qu'il a beaucoup roulé en karting. Il a gardé certaines habitudes de pilotage de karting, comme on a vu à Bakou, changer de trajectoire comme ça au freinage. Je pense qu'il s'est fait dire qu'en Formule 1, ça se fait pas.
Parce qu'il l'a fait plus qu'une fois.
Il l'a fait plusieurs fois. Et puis son patron immédiat, le docteur Helmut Marko, le très sympathique Helmut Marko.
Ouais, il paraît que c'est pas un facile. Hein?
Non, c'est quelqu'un de très, très, très autoritaire. C'est un Autrichien, c'est pas un Allemand, c'est un Autrichien, c'est un ancien pilote, Le Mans, tout, un excellent pilote, mais qui ne va pas avec des gants blancs. Et puis après l'accident de Bakou, je pense que ça a joué dur.
Puis il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que chez Red Bull, c'est une filière. Donc un pilote n'a pas énormément d'années pour prouver qu'il mérite sa place chez Red Bull. Il y a déjà présentement au sein de l'écurie, on va dire junior de Red Bull, il y a des pilotes comme Pierre Gasly, le pilote français, qui lui a réalisé un très très bon début de saison. Et donc ça, c'est déjà des pilotes qui poussent en arrière, on va dire, de Daniel Ricciardo et surtout de Max Verstappen pour l'instant.
D'ailleurs, les volants Toro Rosso et les volants Red Bull, ce sont des sièges éjectables.
Oui, hein? C'est à ça que je pensais, parce que Verstappen lui-même a éjecté Daniil Kvyat de la grosse équipe de Red Bull.
Exactement. On disait justement à l'extérieur des ondes un peu plus tôt, je disais à Philippe, j'ai l'impression que c'est fait sermonner là, par son patron. Il dit non, c'est pas fait sermonner, c'est fait savonner. Donc là, je pense que ça donne vraiment l'étendue de la situation.
Et si on parle de Max Verstappen, et là, je vous amène à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce que Verstappen, par contre, pendant les essais libres aujourd'hui, là, peut-être qu'il
a répondu par la bouche de ses canons. Ça, c'est définitif.
On peut peut-être dire ça, là, parce qu'il a dominé les deux séances d'essais libres.
Bien, ça a commencé ce matin, quand même, je dirais pas sur les chapeaux de roue, parce que ça roulait relativement tranquillement. On a pris la piste. Et déjà là, après une trentaine de minutes, on a vécu un arrêt de piste de Hülkenberg qui s'est tout bonnement arrêté, tombé en panne. Alors, on a ramené tout le monde dans les puits. On a pris une dizaine de minutes de pause et on a relancé le tout. Et par la suite, c'est là où les temps ont commencé à tomber. On était à 1.15 à ce moment-là. Et là, on a fait tomber ça jusqu'à 1.13. Verstappen a signé le meilleur temps. Je l'ai ici. C'est 1.13 à ce moment-là. Donnez-moi une petite seconde. Oui, 1.13.302. Il a permis de clore la première séance ce matin.
Première séance d'essai libre. Et ensuite,
en deuxième, cet après-midi, on a fait tomber ça d'une seconde. On est tombé sensiblement à ce qui va se faire en qualif demain. Là, on était à une 12.138.
On a cinq pilotes qui ont roulé en bas d'une 13 aujourd'hui. Oui. Messieurs, Philippe Brasseur du magazine Pole Position, René Fagnan de motorsport.com. Demain, on peut s'attendre à quoi comme temps de qualification? Est-ce qu'on ça va descendre en bas d'une 12? L'année passée, il y a juste Hamilton qui avait réussi à descendre en bas d'une 13.
Moi, je pense que oui, ça va descendre en bas d'une 12 parce que, premièrement, les conditions climatiques sont très favorables. On sait que ça va être à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier non plus, c'est que le circuit Gilles Villeneuve, il n'est utilisé qu'une fois par année par les voitures de course. Donc, c'est certain que c'est une piste, comme les pilotes vont dire, un peu sale, un peu poussiéreuse au début. Inévitablement, c'est la journée forcément du vendredi qui est sujette à ces problèmes-là, alors que le samedi, à l'heure des qualifications, la piste sera beaucoup plus propre et je pense que oui, on va voir. Et on le voit aussi sur toutes les autres pistes depuis le début de la saison, les records tombent.
Mais là, en plus, ils viennent de repaver le circuit Gilles Villeneuve. Je me trompe-tu d'année ou...
En partie.
C'est l'année passée ou c'est cette année?
Oui, il y a des modifications. C'est surtout des modifications qui sont faites au niveau, on va dire, de la sécurité passive. Certains endroits où c'était des blocs de béton qu'on a mis des nouvelles protections, etc. Mais en termes de repavage, je pense que de toute façon, repavage ou pas, les chronos sont plus rapides cette année-ci dans tous les Grands Prix de Formule 1.
Bon. Et puis, y a-t-il autre chose, Philippe et René, qui vous a marqué aujourd'hui là, pendant ces deux séances d'essais libres? Qui a retenu votre attention.
Oui, quand même étonnant de voir Verstappen avec la Red Bull en avant, avec le moteur Renault, qui n'est pas reconnu pour être le moteur le plus puissant.
Alors que Montréal, c'est un circuit de moteur.
C'est un circuit de moteur, il y a de très longues lignes droites. Par contre, Mercedes, on le sait, ils font le vendredi avec des chevaux en moins. Demain, pression de suralimentation plus élevée, régime moteur un petit peu plus élevé. Hamilton, d'ailleurs, les pilotes Red Bull l'ont dit, Hamilton va être difficile à battre. La voiture est supérieure, mais il n'est pas au Grand Prix du Canada. Il se passe souvent toutes sortes de choses.
Oui, des fois, il y a des vainqueurs champ gauche.
Il y a des voitures de sécurité, des marmottes qui peuvent traverser la piste, on ne sait pas. Donc, il y a n'importe quoi qui peut arriver. Mais par contre, comme dit Philippe, les conditions sont excellentes. Maintenant, c'est... La dégradation des pneus, les fameux pneus hyper tendres, donnent, toutes les équipes semblent dire, c'est pas terrible ici. Alors, reste à voir comment, parce qu'il faut pas oublier que le départ se fait avec les pneus qu'on utilise en Q2, en deuxième séance de qualification. Donc, faudra voir s'il y en a qui vont préférer partir avec des pneus un peu moins tendres, mais qui vont être capables de durer plus longtemps. Donc, il va y avoir de la stratégie demain, surtout lors de cette troisième séance d'essai libre pour bien comprendre, la piste va encore se nettoyer. Il va y avoir encore d'autres voitures qui vont rouler, les Formule 500, les Porsche et Ferrari. Donc, ça nettoie la piste, ça donne plus de grip. La séance, la Q3 va être importante demain matin là, pour bien saisir, surtout si les températures...
Demain matin, c'est EL3, essai libre, troisième séance d'essai libre.
Exactement, oui.
Et en après-midi, là, on a les qualifs.
Les qualifs en trois segments. Mais demain, ça va être intéressant de voir avec la température de la piste, comment on va jouer les stratégies avec le nombre de pneus qu'on a de disponibles.
Bon. Et là, tu nous as parlé de Mercedes. Tu nous disais Hamilton qui risque d'être difficile à battre en fin de semaine. J'ai vu Philippe opiner. Toi, Maxime, t'as parlé cet après-midi à Daniel Ricciardo.
Moi, j'ai parlé à un gagnant du champ gauche en 2014 que probablement personne n'avait vu venir.
Sa première victoire en Formule 1.
Il l'a eu en Formule 1 à Montréal en 2014. Et lorsque je lui ai parlé, on l'a accroché, j'ai dit « Daniel, tu t'attends à quoi? Là? C'est quoi que tu t'attends ici à Montréal ce week-end? Puis qu'est-ce que t'aimes de ce circuit-là? »
It looks okay. I think I would say at the moment Mercedes are the favorite, but we look okay. It's a place I enjoy. It's a track I enjoy. I normally stay the Sunday night here, so it's always nice when you have a good result and you have a good reason to go out. So it's a fun city. So there's a few reasons, and obviously a bit of a love affair. My first ever win was here, so it'd be nice to make it too.
On sait clairement, il nous le mentionne, il dit « J'ai beaucoup de plaisir à Montréal ». Il a commencé sa réponse en me disant « Écoute, j'ai pas énormément d'attentes, je vais travailler fort, mais on s'attend à ce que, justement, là, les Mercedes soient définitivement dominantes. Maintenant, il dit, j'adore la ville, je suis bien ici, souvent je reste le dimanche soir, j'en profite pour sortir, festoyer avec les gens, avoir du plaisir. Ça, c'est une ville que j'aime et qui me rend particulièrement heureux. Et c'est ici que j'ai vécu mon premier gain en Formule 1, alors ça va toujours rester spécial dans mon cœur. » C'est un peu ça qu'il nous mentionnait.
Bon, alors, Ricardo, on parlait de vainqueur champ gauche. Hein? Est-ce que ça pourrait être Bottas, qui n'a pas encore gagné cette année? Ou est-ce que ça pourrait être Raikkonen sur Ferrari, qui n'en a pas gagné depuis des années? Là. Depuis qu'il est revenu chez Ferrari, en fait, il n'a gagné aucune course.
Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup de Red Bull, on parle beaucoup de Mercedes. On a un petit peu l'impression, depuis une course ou deux, qu'on oublie Ferrari. Donc, je crois qu'au niveau de la Formule 1, il ne faut jamais les oublier. Sébastien Vettel est clairement le premier pilote, ça on le sait très bien. Si je devais miser sur un Finlandais ce week-end, je miserais plus sur celui de Mercedes, c'est-à-dire Valtteri Bottas, que sur Kimi Raikkonen. Mais, comme René l'a dit tout à l'heure, à Montréal, il peut toujours se passer plein de choses. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent vu des, entre guillemets, deuxième pilotes venir chercher la victoire. Alors, moi, je pense que ça va se jouer entre Mercedes, Red Bull et Ferrari, ça c'est clair. Maintenant, les six pilotes, donc chacun des deux pilotes de ces équipes-là peut gagner, selon moi.
Bon, alors toi, tu es un des rares qui ajoute Red Bull dans les gagnants potentiels en fin de semaine. La plupart des gens disent Mercedes et ou Ferrari. René? Oh, il prend une grande respiration, là. Est-ce qu'on a une déclaration fracassante?
Non.
Tu vas nous dire que c'est une Sauber qui va gagner le Grand Prix? Ou une Williams?
Williams, non.
On ferait beaucoup d'argent à Las Vegas avec une Williams.
Williams, ça a été encore une fois catastrophique. Il n'y a qu'à regarder les images embarquées du pauvre Lance Stroll, comment il y a de la misère à faire pointer la voiture dans bonne direction. C'est catastrophique. Vainqueur.
Ferrari,
j'ai un gros doute. Moi, j'étais. J'ai vu la tête de Vettel. Et puis, il semble pas serein. Il y a quelque chose qui le tracasse. Raikkonen a déclaré encore la même chose. Vendredi ordinaire, tout.
Il n'a rien dit, comme d'habitude.
Mais l'exploitation des pneus va être... Et puis, les stratèges vont jouer un rôle important. S'il y a une voiture de sécurité, s'il y a un incident, de réagir vite et bien. Et puis là-dessus, Red Bull a vraiment l'avantage. Ferrari, il s'accroche encore les pieds dans les fleurs du tapis. Mercedes... Ils peuvent aussi s'accrocher dans la ligne bleue parfois. Red Bull semble avoir les gens. Il y a une partie de chance aussi, d'être capable de faire rentrer les deux voitures dès que le safety car rentre en piste, puis des renvoyer tout de suite. Mais ils ont peut-être un petit avantage là-dessus.
À mes côtés, Louis Butcher, du Journal de Montréal.
Bonsoir, Philippe.
Salut, Louis. Alors là, vraiment, là, on a un très, très gros trio ce soir, là. Hein, contrairement aux Canadiens, moi, je l'ai, mon gros trio. Là, j'ai mon gros joueur de centre, j'ai deux gros alliés, là, deux power forward. Alors, je vous rappelle que Philippe Brasseur, rédacteur en chef du magazine Pole Position, est avec nous. René Fagnan, de motorsport.com, est avec nous. René, qui dirige la section canadienne de motorsport.com, parce que Motorsport se décline en plusieurs versions et plusieurs langues et plusieurs nationalités. Mm-hmm. Puis Louis Butcher, si vous êtes un fan de sport automobile, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Hein,
moi,
Louis?
Je ne dirige pas le Journal de Montréal, par contre.
Non, mais...
Fort heureusement!
Mais Louis, qui couvre du sport automobile depuis longtemps, on va en reparler d'ailleurs. Maxime, toi, tu l'as vu, Lance Stroll. Oui. Tu l'as rencontré.
Je l'ai rencontré hier, en fait, pour la première fois, lors de la journée porte ouverte. On a eu la chance de discuter un peu. Déjà là, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il était pas très bavard, je pense qu'il était réaliste dans l'optique où il vise pas de grands résultats à Montréal. Là, je pense que personne va se formaliser de ça. Mais d'emblée, il a voulu abaisser les attentes, puis de façon réaliste. Mais aujourd'hui, après son premier essai qui a été, comme je le mentionnais avant la pause, là, difficile puisqu'il a heurté le mur, il a fait exploser son pneu arrière droit, s'est retrouvé à terminer cet essai beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapidement que prévu.
18e temps.
Les
essais libres de ce matin.
Donc ça, c'était quand même décevant dans son cas. On espérait que dans son cas, il allait pouvoir se rattraper en après-midi. Mais encore là, malgré tout, il a terminé la deuxième séance.
19e.
Et il a terminé 19e. Quand même devant son coéquipier Sirotkin, mais tout de même, c'est bien en deçà de ce qu'on aurait pu espérer dans son cas.
Les deux Williams en queue de peloton. Là.
Effectivement. Puis on s'attend demain que le tempo va augmenter, mais je pense pas que sa voiture va être en mesure d'en donner nécessairement beaucoup plus.
Alors, qu'est-ce qui t'a dit de bon, notre ami Lance?
Ben, je vais vous laisser entendre, puis on va en discuter ensuite.
On fait qu'est-ce qu'on peut à chaque fin de semaine, à chaque semaine, à chaque jour chez Williams pour améliorer notre package. Il faut du stabilité, il faut avoir une voiture qui prend bien les vibreurs, il faut du bon freinage, du bon traction, comme à chaque piste. C'est vraiment ça qu'est-ce qui est important. Ah, si on avait la voiture parfaite, on serait premier. Ah, ça ne change pas mon approche. Je fais à chaque fois qu'est-ce que je peux pour prendre le maire du voiture. Et après, c'est ça la nature du sport.
Ça, c'est très drôle parce que c'est notre collègue Philippe Crépeau qui de Radio-Canada qui lui a demandé la question « Qu'est-ce que ça prend pour gagner? » Puis là, il a dit « Bon, mais ça prend un bon freinage. Bon, » si... Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas ça, tu fais quoi? Ah, ben si vous saviez, si on avait une bonne voiture, on gagnerait. T'sais, en même temps, il est conscient que ça va pas bien, mais psychologiquement, ça doit être très difficile pour lui. Puis c'est drôle parce que je vais vous amener là-dessus, parce qu'hier, j'ai eu la chance de discuter avec Bertrand Godin, et puis je lui ai demandé, je dis, toi qui es un ancien pilote, Bertrand, là, la position de Lance Stroll en ce moment, ça doit être réellement difficile. Voici ce qu'il m'a répondu.
C'est très difficile psychologiquement ce que vit Lance Stroll. Surtout, bon, j'ai toujours dit une année pour apprendre, une année pour gagner, à condition d'avoir le matériel pour pouvoir le faire. Le matériel, il a besoin de beaucoup évoluer. Mais la mentalité d'un pilote, c'est qu'il va embarquer dans la voiture puis il va donner le 100% de lui-même. On le sait, sur une performance pure, ben on s'attend pas à ce que Lance Stroll qualifie aux avant-postes. Maintenant, sa gestion de course, c'est ce qui a été sa force l'année passée. Il a pu engranger quand même beaucoup de points à cause de sa gestion de course et même son podium à Baku. Il faut qu'il se concentre là-dessus, tout simplement, de ne pas faire d'erreur, de penser à tirer le maximum. On le sait, au départ, il est quand même, il tire son épingle du jeu, mais c'est l'arrivée qui compte.
Donc, je pense qu'on est même conscient. Puis Bertrand Godin le dit, là, on ne peut pas mettre d'attente, mais dans son cœur, dans ce que voudrait Stroll, il voudrait bien faire quelque chose, là, mais... C'est pas possible. Donc,
Bon, alors là, la question à 400 $, Philippe, René, Louis. Je la pose à Louis d'abord parce qu'il vient de se joindre à nous. Il n'a pas parlé encore. On va.
C'est à bon tour.
Avant qu'il se mette à bouder, là, je vois.
Juste une petite remarque, Philippe. Ce qu'on a entendu de Lance Stroll tantôt, j'ai entendu le même discours il y a quelques semaines à Barcelone. Alors, on voit que son discours n'a pas changé. À Monaco, c'était la même chose.
Fait que c'est la même cassette.
C'est la même cassette. Ça revient tout le temps. On essaie de trouver des solutions, un nouveau package, comme il dit, mais il n'y a aucune solution. Moi, j'ai écrit récemment que c'était une saison à oublier, une saison à effacer complètement. Comme tu dis, Philippe, on reset et on repart à zéro. Mm. D'ailleurs, on a fait des changements récemment chez Williams. Là. On a congédié deux artisans de la nouvelle monoplace, la FW41. Donc, on veut vraiment relancer cette saison-là, mais je pense qu'il est trop tard.
Est-ce que tu peux vraiment faire ça en plein milieu de la saison? Est-ce que c'était le bon moment de congédier ces gens-là maintenant?
On n'a pas le choix. D'ailleurs, je pense que c'est à vous que Claire Williams a dit on a nos responsabilités.
Oui.
Alors, je pense que les premières tâches qu'elle a faites, c'est justement de remanier sa garde rapprochée. Ces ingénieurs, ces artisans de cette nouvelle monoplace-là qui est assurément mal née.
Alors, René, on pense déjà à 2019. Hein?
Ben exactement. Pourquoi changer de staff maintenant? C'est justement parce qu'on commence à travailler sur les voitures 2019 maintenant. Donc, si on les garde trop longtemps, ils vont refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, l'aérodynamicien a été mis à la porte. Pourquoi? Ils ont le même moteur que la Mercedes officielle, que les Force India. C'est un moteur puissant qui avance. Alors, pourquoi le Williams avance pas? Elle génère trop de traînées. Alors là, il y a un problème aérodynamique, manque d'appui, puis en plus, elle génère de la traînée. La traînée, c'est comme traîner une ancre en arrière d'un bateau. Vous avancez pas. Parce qu'il y a trop de turbulences. Donc à ce moment-là, il faut régler. Mais c'est tellement subtil, vous savez. C'est pas une affaire d'un pouce, un pouce et demi. Là. On n'est pas en menuiserie. C'est des millimètres où se situe le centre de dépression de la voiture par rapport aux ailerons, par rapport au centre de gravité, par rapport au centre de roulis. C'est des affaires de millimètres. Et c'est ça qui fait la différence puis qui explique une différence d'une seconde et demie, deux secondes autour des fois. Parce que ce qui vous tient sur la piste, c'est les pneus. Alors, si vous n'avez pas d'appui, si vous avez un appui qui change constamment quand vous accélérez, quand vous freinez, les pneus chauffent mal, vous avez des pneus en avant trop chauds, des pneus en avant trop froids, essayez de conduire ça. C'est comme avoir des pneus d'été en pleine tempête de neige, des pneus d'été en avant, puis des pneus d'hiver en arrière, dépendamment si vous avez une traction ou une propulsion. C'est inconduisible. Puis quand on... C'est ça qu'on disait tantôt, quand on regarde les images embarquées, le pauvre Lance Stroll, il y a un énorme sous-virage à l'entrée. Après ça, le derrière part en sur-virage. Et c'est là qu'il tape le mur à chaque fois. C'est inévitable. La piste n'est pas large ici.
Philippe, si on avait gardé Felipe Massa, est-ce que ça n'aurait pas pu aider un petit peu cette espèce d'équipe-là là, qui semble aller à la dérive? Avoir quelqu'un qui a un solide bagage technique et qui a de l'expérience.
Je pense que ça aurait aidé, oui. Mais ça n'en aurait pas fait une voiture gagnante pour autant. Le problème, il est essentiellement que cette voiture, elle est ce qu'on appelle mal née. C'est-à-dire qu'elle est ratée, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Cette voiture, c'est pour ça
c'est un échec au niveau aérodynamique complet, comme René vient de l'expliquer.
D'où le congédiement des deux responsables.
Et spécialement le chef aérodynamicien, parce que c'est vrai qu'il faut penser, comme on l'a dit tantôt, il faut penser à la voiture de 2019 déjà. Et je crois effectivement que la saison 2018 de Williams, il n'y en aura pas de miracle. La seule chose qui peut peut-être leur arriver, c'est qu'il y ait des malchances d'autres écuries de fond de gris, on va dire comme ça, comme Toro Rosso, Haas et d'autres, et qui parviennent à marquer ou Sauber qui parviennent à marquer assez de points pour peut-être grappiller une ou deux positions. Mais penser que l'écurie Williams va terminer dans le top 7 au championnat cette année-ci, c'est utopique selon moi. Donc c'est certain que d'avoir un pilote plus expérimenté que ne le sont Lance Stroll et surtout Sergei Sirotkin, son coéquipier qui est recru. Et ça aurait aidé à faire progresser peut-être un petit peu la voiture, aller quand même chercher peut-être une coupe de points par opportunisme justement, par en ayant un pilote justement beaucoup plus expérimenté. Mais ça n'en aurait pas fait une voiture gagnante, ça c'est certain.
Oui, il faut vraiment, là, la voiture, là, c'est raté. Là,
on n'est plus à l'époque des années 60 ou 70 où un pilote avec un bon vieux moteur Ford V8 Cosworth était capable de faire la différence,
même si
le châssis était plus ou moins raté. On n'en est plus là aujourd'hui avec la technologie de ces voitures-là.
Mais c'est quand même un peu gênant quand on est l'écurie Williams. On est une des grandes écuries de la Formule 1, la deuxième plus titrée des écuries après Ferrari.
C'est très gênant, mais McLaren, qu'est-ce qui leur est arrivé dans les dernières années?
Ah,
c'était aussi une écurie qui a été en fond de gris. Hein?
Oui, mais McLaren, au moins, peuvent toujours se justifier en disant « Oui, mais nous, on a fait un pari, on a essayé le moteur Honda, ça n'a pas marché. » Alors que Williams, ils ont, tu l'as dit toi-même, ils ont le meilleur moteur, ils ont le moteur Mercedes. C'est encore plus gênant. Là. Puis on regarde ce que Force India fait avec le même moteur et un budget inférieur à celui de Williams.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Cette écurie-là doit changer profondément les choses en vue de 2019. Mais pour cette saison, malheureusement, une fois que la saison part, c'est trop tard. On ne peut plus fondamentalement, avec le nombre d'essais qui sont extrêmement limités aujourd'hui. À l'époque de Jacques Villeneuve, un pilote pouvait avoir fait 3 saisons de course en essais privés avant de commencer le premier Grand Prix.
L'équivalent de 3 saisons.
L'équivalent, exactement. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Les règles de la FIA ne le permettent plus. Il y a même une règle qui dit que tout le personnel doit avoir quitté le paddock à une certaine heure, à la minute précise pour tous les Grands Prix. Sinon, il y a des pénalités. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler comme autrefois sur les voitures.
Mais les règlements sont effectivement trop stricts. À Barcelone, lors des essais privés, on a droit à une voiture seulement. Donc, les coéquipiers doivent se partager la voiture pendant la journée ou pendant les 4 jours d'essai pendant une semaine.
D'ailleurs, toi, Louis, oui. Tu assistes régulièrement aux essais privés en début de saison à Barcelone. Tu es toujours là?
Oui, exactement. Et c'est ça qui arrive, là, comme Stroll, Lance Stroll, le matin, faisait 3-4 heures. Mais s'il y avait un pépin mécanique, on retardait au lendemain. L'autre pilote ne pouvait pas la piloter. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'après moi. Moi, j'ai toujours dit que la Formule 1 devait être extrême. Mettez-en 3-4 voitures d'essai, s'il faut. À l'époque, c'est ça que Jacques me disait. Mettez-en des voitures. On va les essayer. On va les rendre plus performantes. Mais ils sont tellement limités en termes de réglementation que ça ne fonctionne pas.
Et il y a une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que ce n'est pas une question nécessairement de budget.
Non.
Parce qu'il y a l'exemple, il y a une dizaine d'années, de Toyota. Toyota avait un budget d'à peu près 3/4 de milliard, 750 millions. Ils n'ont jamais gagné.
Ce qui est plus que le budget actuel de Mercedes.
Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, le budget de l'écurie Renault Sport, par exemple, c'est autour de 100 à 150 millions.
Et quand même, hein?
Quand même. Et mais on est loin des 750 millions de Toyota il y a 10 ans.
Et ils n'ont jamais gagné. Il faut dire qu'il y avait deux pilotes aussi qui n'étaient pas des pilotes qui appartenaient au premier tiers, là.
Ben, ils ont eu Ralf Schumacher, ils ont eu des pilotes quand même de très, très bon niveau. Arnaud des pilotes Trulli, qui gagnaient autrefois avec
les McNish, c'était pas des top.
C'était pas des champions non plus, là. T'sais, on n'a pas eu de Fernando Alonso ou de gars qui avaient déjà gagné des championnats.